L'important, c'est de faire redémarrer l'économie.
Pour redémarrer l'activité dans des bonnes conditions.
Ma préoccupation, c'est que notre économie puisse redémarrer.
On est bien sur un scénario de redémarrage.
Il faut qu'on puisse redémarrer.
Redémarrer, c'est le mot de la semaine. Redémarrer les entreprises, redémarrer le travail. Bref, rallumer les moteurs de l'économie. Comme on sortirait Hibernatus de la glace. C'est l'étape qui nous attend et c'est tout le sujet du Mag Éco ce matin. Mais avant de se demander qui, quoi et comment rallumer après le grand confinement, permettez encore un coup d'œil, d'ailleurs ce ne sera pas le dernier, sur nos retards à l'allumage. Et là, retard sur les tests, le dépistage, contrairement à l'Allemagne, et ça a aussi bien sûr des conséquences économiques. Alors prudence, gare au yaka faucon, mais quand même ce matin, consternation. À la lecture de cette nouvelle enquête, cette fois dans le journal Le Monde. Le retard sur les tests, ça se résumerait en deux formules. Obstacles administratifs et épreuves bureaucratiques. Incapacité, en clair, à déverrouiller vite une réglementation lorsque l'urgence survient. Et puis tenez, ne parlons même plus des tests, on peut aussi regarder l'organisation de l'aide alimentaire qui vient d'être débloquée. Alors là, bravo. Mais toujours les préfectures, l'État au milieu des dispositifs, au lieu de laisser la main aux associations, est toujours remonté au sommet pour redescendre ensuite sur le terrain. J'écoute ce qu'on en dit, par exemple au Secours Populaire. Et là, j'entends usine à gaz.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Mag Éco XXL. Le réalisateur s'appelle Coy Nguyen, l'attaché de production Valentin Pérez. La programmation musicale est signée ce matin Jean-Baptiste Audibert. Et Fabrice Desmaz est aussi avec nous à la technique. Les débatteurs, ils sont également avec nous. Ils sont là, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et bonjour à vous Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Emmanuel.
Bonjour à tous.
Allez, le débat ce matin. On revient sur le sommet, on va revenir sur le sommet des 27, était avant-hier. Alors on a vu moins de divisions parmi les Européens, mais toujours pas de plan de relance. Les questions sur la dette, hein, la dette commune, elles sont toujours sur la table. Le thème de notre débat ce matin, c'est « Mais que fait l'Europe ?» Alors auditeurs, auditrices, interpellez-les ces débatteurs. Nous attendons vos questions. Théo et Bianca sont au standard qui est ouvert. Ça se passe au 01 45 24 7000. Et puis il y a aussi le mail. On n'arrête pas l'écho, @radiofrance.com. Tout attaché, ni accent, ni apostrophe, tout en minuscules. On compte sur vous pour poser vos questions sur l'Europe, sur la dette, à Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux. Le reste du programme de cette première heure, eh bien nous irons aux États-Unis. On va vous raconter une incroyable histoire de détournement. Et puis l'économie des médias, ce sera avec Sonia De Villers et son invité, c'est le patron de presse Jean-Michel Baillet. Et ce sera dans le dernier quart d'heure. Mais tout de suite, le débat. L'Europe est-elle à la hauteur ?
23 avril 2020.
Ils vont tenter de se mettre d'accord sur un plan de sauvetage de l'économie européenne.
Pour la reconstruction économique européenne tras l'impact de la crise du coronavirus.
Pandémie de Covid-19 oblige.
Corona-Krise wird sehr viel Geld gebraucht.
Plusieurs chefs d'État préviennent en cas d'échec des négociations. L'UE risque de voir s'accroître la défiance à son égard.
Il faut de la solidarité européenne.
Enrico Letta.
Maintenant, on est là à en discuter.
Ancien président du Conseil italien.
La France a mis sur la table une bonne proposition. C'est cette idée du Recovery Fund.
Président de l'Institut Jacques Delors.
Cet axe franco-italien-espagnol, j'espère, va gagner. Et c'est nécessaire parce qu'une rupture dans le Conseil européen aurait des conséquences très négatives.
Je pense qu'aujourd'hui,
Thomas Piketty,
on devrait faire avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, bien sûr, si elle le souhaite.
Économiste.
Une véritable solidarité européenne sur la question de la dette. Et la seule solution, c'est d'avoir, avec un contrôle démocratique, d'avoir la possibilité d'émettre ensemble des titres de dette pour se protéger des spéculations des marchés financiers.
Supposons que soit venu le temps et la volonté politique de mutualiser la dette.
Angela Merkel. Chancelière fédérale de l'Allemagne.
Alors, tous les parlements nationaux dans l'Union européenne et le Bundestag allemand devraient modifier les traités européens afin qu'une partie de la loi budgétaire soit transférée au niveau européen et contrôlée démocratiquement. Ce serait un processus long et difficile qui ne pourrait pas apporter une aide directe dans la situation actuelle, Or, il s'agit aujourd'hui d'aider rapidement et de disposer rapidement d'outils qui peuvent atténuer les conséquences de la crise.
À Bruxelles, les Européens s'accordent sur le principe d'un fonds de relance de l'ordre de 1000 milliards d'euros, mais son montant n'a pas été fixé officiellement. Et il reste des désaccords sur le moyen d'aider les régions et les secteurs les plus touchés. Les pays du Sud et la France militent pour des dons, les pays du Nord pour des prêts remboursables. Les décisions sont repoussées à l'été.
Là où nous avons des désaccords, c'est dans la nature des transferts qui sont faits.
Emmanuel Macron.
Je crois que dans le moment que nous vivons, ces transferts doivent être des transferts par subsides, des vrais transferts budgétaires vers une région particulièrement touchée, un secteur particulièrement touché. Là-dessus, il n'y a pas de consensus aujourd'hui.
Et le sommet européen, c'était donc jeudi. Un mois auparavant, vous vous souvenez, c'était le 26 mars. On avait vu les divisions des 27 s'étaler au grand jour. On va dire que là, cette semaine, ils sont d'accord, les 27, pour se mettre d'accord. Mais sur le détail du plan de relance, sur la dette, rien n'est réglé. Alors Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, je vais vous poser à tous les deux une première question générale. On est en train, en tout cas le FMI nous annonce, la pire récession mondiale depuis les années 30. Nous, nous appartenons à la fois à une famille et à un club. La famille, c'est l'Union européenne, le club, c'est la zone euro. Christian, est-ce que ça nous apporte quelque chose, cette appartenance, pour justement rallumer l'économie ?
C'est vraiment ça le débat aujourd'hui. L'ensemble des pays européens sont en train de sortir progressivement du déconfinement et on sait que pour faire mentir le Fonds monétaire international et tous les économistes qui nous prévoient une récession extrêmement forte, il va falloir repartir le plus vite possible et repartir ensemble au niveau européen, ce serait beaucoup mieux. Et là, de ce point de vue, ce qui s'est passé cette semaine, on a quand même eu deux messages positifs. D'un côté, les Européens se disent si on le fait ensemble, on va mieux sortir de la crise. Et puis le deuxième message positif, c'est quand même Angela Merkel, on l'a entendu dans le son, elle est prête à changer les traités internationaux pour qu'il y ait plus de transferts des pays riches vers les pays pauvres. Elle a même dit jeudi dernier, au moment de la réunion, qu'elle était prête, l'Allemagne, à mettre beaucoup d'argent. Donc ça, c'est les deux points positifs. Par contre, évidemment, il y a deux points négatifs, c'est que pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils ont demandé à la Commission européenne, donc à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de nous définir un plan début mai. Et là, comme les sons qu'on a entendus l'ont bien dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Quel montant ? A priori, Ursula von der Leyen a dit on parle de milliers de milliards, pas de milliards, donc au moins 1000 milliards. Des dons ou des prêts ? Si c'est des prêts, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la dette à de la dette, donc c'est pas terrible. Est-ce qu'on va pouvoir financer toutes les dépenses pour pouvoir relancer l'économie, ou uniquement les dépenses, par exemple, de santé, ou uniquement les dépenses d'avenir, comme on l'a dit au moment de ce Conseil européen. Est-ce que ça va être 1000 milliards d'argent public, ou est-ce que les Européens vont nous refaire le coup qu'ils nous ont fait ces dernières années, à savoir, je mets un petit peu d'argent public en disant que ça va mobiliser de l'argent privé, donc au total, le privé plus le public, ça fera 1000 milliards. Encore beaucoup d'incertitudes à ce stade.
Ah oui, beaucoup de questions, et on a l'impression que ça avance quand même lentement. Emmanuel Le Chypre, vous trouvez vous aussi, qui a eu des messages positifs, ça nous apporte quelque chose face à la crise d'être dans cette famille européenne ?
Alors, il y a quelques messages positifs, hein, effectivement. Cette idée acquise sur le papier d'un fonds de relance pour l'après-crise, c'était pas forcément gagné. Donc oui, c'est positif. Ce qui est positif aussi, c'est que crise après crise, on a quand même des réactions qui sont plus rapides. Hein. Il faut se rappeler des atermoiements de 2008-2009 et puis des atermoiements de 2010-2011 sur la situation de la Grèce. Là, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience qui est plus rapide. Je suis d'accord avec Christian, les avancées, parce qu'on voit ce front France, Italie, Espagne, mais rappelons que c'est quand même le moteur franco allemand qui tire l'Europe, et que c'est toujours ce moteur qui finalement est capable de venir à bout de la réticence de petits pays comme les réticences des Pays-Bas qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que les avancées de Madame Merkel sont plutôt intéressantes, effectivement, avec cette idée qu'on va modifier les traités. Après, le problème, c'est que on voit bien que toujours structurellement, l'Europe ne peut faire que trop peu et trop tard. C'était l'expression de Christine Lagarde cette semaine. Et ouais. Encore une fois, on ne peut pas sortir de ce schéma traditionnelles, pour des raisons institutionnelles qui tiennent au processus de décision en Europe. Là, on a vu que on avait eu le Conseil qui avait renvoyé vers l'Eurogroupe, puis l'Eurogroupe qui renvoie à nouveau vers le Conseil qui renvoie vers la Commission. Ça, c'est des problématiques institutionnelles qu'on n'arrive pas à traiter. Il y a quand même toujours des raisons, des divergences majeures sur le plan philosophique et idéologique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et on voit bien que cette crise devrait être l'occasion, alors je sais, c'est peut-être pas le moment où il y a le feu et où il faut éteindre l'incendie, mais de se poser les vraies questions sur le projet européen, l'utilité de ce projet et le fonctionnement de nos institutions pour être plus efficaces. Là, on voit que, bon, face à une situation exceptionnelle, on essaye de faire un effort exceptionnel, mais on n'essaye pas de remettre sur la table le logiciel européen, et ça, c'est quand même un peu dommage.
Donc, si je comprends bien, là, en ce moment, ce dont on est en train de parler, c'est l'instrument budgétaire, et c'est pour le après. Vous me parlez tous les deux de l'argent qu'on va mettre dans un éventuel plan de relance. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, Christian Chavagneux, l'Europe, elle n'a rien fait face à cette crise?
Non, pas du tout. D'abord, les pays européens ont fait des choses. Il y a un fonds, par exemple, de 100 milliards pour aider à financer partout, dans tous les pays, toutes les mesures de chômage partiel. On voit bien qu'en France, on y a beaucoup recours, mais en même temps, on voit bien qu'avec les 100 milliards, on ne va pas aller très très loin compte tenu du nombre de personnes qui sont en chômage partiel partout dans la zone euro. Il y a 200 milliards de garanties de prêts par la Banque européenne d'investissement qui peut faire des prêts pour aider les PME, les PMI, etc. Mais bon, encore une fois, c'est rajouter de la dette à de la dette. Il y a aussi des éventuelles lignes de crédit potentielles dont on attend toujours qu'elles arrivent. Donc du côté des États européens, il y a quand même des petites choses qui ont été faites. Et puis surtout, l'institution qui a sauvé la zone euro pendant la crise de 2007-2008 et 2009-2010, et l'institution qui de nouveau est en train de sauver la zone euro aujourd'hui, et bien sûr c'est la Banque Centrale Européenne qui, après un petit cafouillage au début, a fini par dire, écoutez, je vais vous mettre 1000 milliards sur la table, c'est à peu près l'équivalent de pratiquement 10% de la richesse produite au sein de la zone euro, donc c'est significatif, et là en rachetant toutes les dettes qui sont liées, toutes les dettes publiques qui sont liées au financement de cette crise. Donc là, oui, la Banque Centrale Européenne, elle a encore agi, mais on voit que on a besoin de cette aide budgétaire parce que les investisseurs disent, même avec tout ça, est-ce que l'Italie va être capable de rembourser sa dette? Elle est élevée, l'Italie a été très très touchée par la crise sanitaire, très touchée par la crise économique. C'est ça en fait l'enjeu de ce dont on a discuté juste avant avec Emmanuel jeudi dernier, c'est est-ce qu'on va être capable d'aider les pays qui ont le plus trinqué dans cette crise? Et là, vous avez le club des sympas qui est dirigé pour une fois par Emmanuel Macron, et vous avez le club des radins qui est dirigé par la Hollande, et Hollande qui est vraiment aujourd'hui dans une position tout à fait vraiment inacceptable, parce que non seulement elle refuse les transferts vers les pays qui en ont besoin, et en plus elle nous vole des recettes en étant un paradis fiscal. On a une petite étude il y a une dizaine de jours qui dit que rien que sur les multinationales des entreprises américaines installées en Europe, elle nous pique 10 milliards de recettes fiscales, et le premier pays qui est touché, c'est la France avec 3 milliards. Donc c'est vraiment de l'anti-jeu total européen de la part de ce pays.
Emmanuel Le Chypre, on a vu la Banque Centrale et tout le poids qu'elle prend. C'est elle la première bouée de secours? Et dites-nous, vous aussi, pourquoi on a besoin maintenant de faire appel aux États, au budget? Pourquoi ce sont deux instruments différents et que l'un ne suffit pas?
Alors, si on pouvait faire sur le plan du fonctionnement des institutions européennes les progrès qu'on a fait en matière de solidarité financière au cours des 20 dernières années, ce serait formidable, parce que il faut bien voir que la crise de 2008, alors en Europe appelons-la la crise de 2008-2011 pour faire simple, hein, la crise financière plus la crise de la dette a permis la création de mécanismes de solidarité européens, et notamment ce fameux mécanisme de stabilité financière qui permet de faire de la solidarité entre États, et ça n'existait pas avant tous ces filets de protection. Donc sur le plan financier, on a bien progressé. Pourquoi ce que fait la BCE est fondamental mais ne suffit pas? Eh bien, c'est parce que cette crise n'est pas une crise financière, c'est-à-dire que ça n'est pas une crise les banques banques ne sont pas au cœur de cette crise, et donc la BCE n'est pas là pour réparer le système économique. Et pourquoi on a besoin des États? Parce qu'il faut bien comprendre que on peut se laisser terrifier par les chiffres, mais cette crise n'est pas encore la plus grande crise économique et financière du XXe siècle.
Ah bah,
bien sûr, la chute brutale de l'activité sur un trimestre, elle est spectaculaire. Mais quand Édouard Philippe dit, par exemple, c'est la pire crise depuis 1945, non, pas encore. Ça risque de le devenir. Ça risque de le devenir.
Emmanuel, si on va avoir 8% de récession. On va avoir une récession énorme. Comment est-ce que vous pouvez dire ça?
Mais on va l'avoir. On va l'avoir. Attendez. On va l'avoir. Tout dépendra de la façon dont on sera capable de redémarrer une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire et du confinement. Non. Et si on arrive à faire que cette crise ne soit qu'une crise qui va durer un ou deux trimestres. Bien sûr qu'il y aura des entreprises qui vont rester sur le carreau, etc. Mais ça ne deviendra la plus grande crise du 21e siècle, et même des 100 dernières années, que si on n'est pas capable d'accompagner la sortie de crise et la reprise. Et là, ça va demander, de la part des États, des budgets considérables. On voit bien qu'il y a des entreprises dans les secteurs les plus en difficulté partout en Europe qui vont devoir être accompagnées sur bien plus longtemps que un mois, deux mois, trois mois, qui sont les durées moyennes à peu près sur lesquelles sont prévus les dispositifs actuels. Prenez toutes le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, etc., dont on nous dit déjà qu'il y a un tiers des entreprises qui ne survivront pas. Si on ne les accompagne pas durablement dans cette économie qui, dans beaucoup de secteurs, va être l'économie du 1 sur 2, c'est-à-dire quand on vous dit que dans les restaurants, il y aura une table sur deux, bah oui, mais c'est pas une économie viable, ça, l'économie du 1 sur 2. Donc, il va falloir des sommes considérables. Et puis, on aura donc besoin des États. Et on aura besoin de solidarité entre États, parce que tout le monde ne redémarrera pas au même rythme.
D'accord. Merci, Emmanuel. On va filer au standard. Nous avons Annie de Montluçon qui nous a appelé immédiatement. Bonjour, Annie. Je vous souhaite la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes en direct. Est-ce que vous voulez bien nous poser votre question?
Alors, la question, en préalable, je suis totalement inculte en économie. Je voulais savoir, au bout du bout, depuis que j'entends qu'on doit rembourser une dette qui se chiffre à des milliards et des milliards d'euros, au bout du bout, à qui on rembourse l'argent?
Inculte en économie, ça, c'est pas, je suis sûre que non. Personne n'est, non, mais vraiment. Et on est là tous ensemble pour décortiquer ces choses qui sont en réalité compliquées pour tout le monde. Merci de votre question, Annie. Donc, toute cette dette, Christian Chavagneux, qui au bout du bout la paye? Ça, c'est une question qui revient tout le temps au standard.
Ouais, ça c'est sûr. On a beaucoup de questions, nous aussi. Alternative économique, c'est une des questions clés. Qui achète le surplus de dette déjà qu'on est obligé d'avoir pour pouvoir répondre à cette crise? Là, la réponse, elle est claire, c'est la Banque Centrale Européenne. Avec ce qu'elle a mis sur la table, elle est capable, en grande majorité, de nous financer. Ce qui fait qu'on a pratiquement un financement monétaire de notre déficit budgétaire et donc un financement monétaire de notre dette publique. Au moment où on allait attaquer la crise, elle détenait à peu près 20% de la dette française. C'est sûr qu'on va monter beaucoup plus haut. Pour le reste, il y a les banques françaises qui achètent de la dette publique, mais elles en détiennent à peu près 6-7%, donc ça va pas très très loin. Il y a aussi les assureurs qui placent. Moi, à chaque fois qu'on place en assurance vie, par exemple, et qu'on attend des rendements, les assureurs, de l'autre côté, ils mettent l'argent, ils placent l'argent, et une partie est placée en dette publique. Et puis, il y aura à peu près la moitié qui nous est financée par des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des gens qui ont de l'épargne, qui sont en dehors de la France et qui viennent acheter de la dette publique française parce qu'ils ont tout à fait confiance dans le fait que la France va pouvoir rembourser sa dette. Donc voilà en gros les grosses masses. Hein, en gros, là, on va dire la moitié des investisseurs étrangers, dont des banques centrales étrangères, la Banque centrale de Chine, la Banque centrale du Japon, qui viennent nous acheter de la dette, les assureurs, un petit peu les banquiers et puis la Banque centrale européenne.
Annie, votre autre question, est-ce qu'elle est toujours là, Annie, avec nous?
Oui.
Est-ce que ça vous paraît plus clair? Votre autre question, c'est au bout du compte, qui va payer? C'est ça, si je comprends bien?
Non, pas tellement, puisque au bout du compte, je sais que c'est le contribuable, c'est nous qui allons payer, mais finalement, on paye peut-être pour des gens qui vont après investir dans des, enfin, qui n'investissent pas, qui cachent dans des paradis fiscaux, finalement.
Ah bah là, si vous lancez Christian Chavagneux sur les paradis fiscaux, Christian, merci Annie. Christian, Christian.
Oui, alors c'est vrai que malheureusement, il y a des investisseurs qui veulent toucher les intérêts sur la dette publique. Enfin, quand il y a des intérêts, parce qu'en ce moment, on arrive à emprunter à des taux d'intérêt négatifs. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, les investisseurs qui touchent des intérêts essaient de ne pas payer d'impôts sur les intérêts qui sont touchés. Par exemple, en France, si vous prenez à la fois les intérêts que vous touchez lorsque vous prêtez de l'argent et les dividendes que vous touchez lorsque vous investissez dans une action, aujourd'hui, c'est Thomas Piketty qui avait montré ça, on déclare en France aujourd'hui plus d'allocations chômage que d'intérêts et de dividendes touchés. Ça ne veut pas dire qu'on distribue plus d'allocations chômage. Ça veut dire que les gens qui touchent des intérêts et des dividendes les planquent et ne les déclarent pas. Donc oui, ça peut être un problème.
Au standard, nous avons aussi Laurent qui nous appelle de Paris. Bonjour et bienvenue, Laurent. Laurent,
bonjour,
vous êtes en direct. Oui, je vous entends parfaitement bien, on vous entend tous. Vous, c'est une question sur la solidarité en Europe ?
Oui, tout à fait. Comme disaient les débatteurs, il y a l'opposition Nord-Sud, notamment menée par les Pays-Bas. Et effectivement, ça pose la question, comme le soulevait un de vos débatteurs, sur l'équité fiscale et justement toutes ces entreprises, tous ces pays qui hébergent des paradis fiscaux, type les Pays-Bas. Est-ce qu'on ne devrait pas en tenir compte dans la négociation et en profiter pour remettre un petit peu d'ordre dans le futur, comme je crois au Danemark, il y aura aide aux entreprises s'il n'y a pas de paradis fiscaux dans leur montage financier. Voilà.
Merci Laurent. Emmanuel Lechypre, remettre un petit peu d'ordre dans la solidarité européenne, le manque de solidarité Nord-Sud, les Pays-Bas
qui... C'est malheureusement un sujet récurrent et dans les points faibles de la construction européenne, il y a effectivement ces grands écarts fiscaux qui font que, on a eu à nos portes, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, alors à des titres divers et puis sur des domaines différents. Alors pendant des années, l'idée, ça a été de dire, de façon assez cynique d'ailleurs, il vaut mieux avoir un petit paradis fiscal chez nous plutôt que pas de paradis fiscal du tout, et que l'argent est complètement ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a été d'une indulgence extrême vis-à-vis de ces petits pays. Indulgence renforcée par, encore une fois, le fonctionnement institutionnel de l'Europe qui donne à ces petits pays un poids et un pouvoir dans les décisions qui est démesuré par rapport à leur pouvoir à la fois économique et démographique, par exemple. Et ça, c'est vraiment un frein. Ces processus de décision européens dans lesquels il faut l'unanimité et où chaque voix a le même poids, c'est une complication. Après, ce qu'on arrive à voir quand même, c'est que dans les grands moments, c'est-à-dire par exemple là pour ce fonds de solidarité, on voit quand même que les grands États ont des moyens de coercition relative. C'est-à-dire qu'en gros, quand papa et maman allemands et français tapent du poing sur la table, les petits pays arrivent quand même à être ramenés à la raison, et notamment les petits pays occidentaux type Pays-Bas. Donc sur le point précis du fonds qui va financer la reprise, par exemple, je pense qu'on arrivera à tordre un peu le bras à ces petits pays. Après, effectivement, chacun va continuer à avoir midi à sa porte. Mais l'harmonisation fiscale fait partie des sujets sur lesquels, effectivement, il faudrait avancer aussi, et sur lequel on n'avance pas parce qu'on n'est pas capable de parler autre chose que de la gestion quotidienne de la boutique.
Allez, je crois que c'est clair. On retourne au standard où cette fois-ci, c'est un Laurent de Metz qui appelle France Inter et le MyGecko. Bienvenue à vous, Laurent.
Bonjour, Laurent de Metz. Pour nous avons notre 44e jour de ciel bleu.
Ah, bah écoutez, bravo. Ça nous fait plaisir de partager ça. Ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Et vous avez une question sur ce qui s'est discuté finalement, sur ce qui était sur la table jeudi, de quoi est-ce qu'on parlait, c'est ça, au Conseil européen ?
Ben, le truc, c'est que si on met en place une politique de relance massive de la consommation, en France, on est mal barré, parce que les produits industrialisés, si vous voulez vous acheter un nouveau vélo, un nouvel appareil photo, ou bien une guitare comme moi, vous vous rendrez compte que c'est pas du tout made in France, et qu'une relance massive finira quand même par bénéficier à ceux qui nous ont plantés, c'est-à-dire les Chinois, quoi. Mmh. Donc la question que je me pose, c'est que même si on fait un... Est-ce que ça ne pose pas la question structurelle de la production made in France, de la labellisation, et voire même, j'allais dire... de tordre le cou un peu aux règles de concurrence, parce que les Asiatiques, la Chine, elle aide ses industriels. Elle les aide au niveau technologique, elle les aide au niveau douanier, dans plein de domaines, ce qui fait qu'ils sont hyper concurrentiels. Or, en Europe, on est capable de produire à des coûts relativement faibles. Mais bon, nous, on joue l'orthodoxie économique avec des gens qui n'ont jamais joué, quoi. Je crois que selon l'OCDE, la Chine est toujours un pays en voie de développement. Donc, la question, c'est, moi, je veux bien consommer un peu plus. Mais le truc, c'est que l'économie française est super dépendante du tourisme, du luxe et de certains services, et qu'on sera à la traîne de la relance. Les Allemands sont beaucoup plus industrialisés, et je pense qu'en Europe, l'Allemagne, peut-être d'autres pays, peut-être même l'Italie, en cas de redémarrage industriel, en bénéficieront.
On va poser la question à Christian Chavagneux. C'est une excellente question. Derrière, il y a le protectionnisme, mais aussi la concurrence intra-européenne. Christian, finalement, si on fait une relance, on met des sous. Est-ce que ça profite aux importations ?
Alors là, il ne s'agit pas de faire une relance de la consommation. On ne va pas distribuer de l'argent aux ménages, parce que vous savez que on a la chance avec, enfin la chance entre guillemets, avec le chômage partiel, du fait que on est quand même bien soutenu en termes de revenus. Bien sûr, les revenus des Français sont inférieurs à ce qu'ils auraient été si on n'avait pas connu la crise, mais on arrive quand même, pour les gens qui ont la chance d'avoir un travail, d'avoir des revenus à peu près préservés, alors qu'on ne peut pas dépenser. Donc on se retrouve avec de l'argent mis sur le côté, hein, les dépôts dans les banques augmentent, on dépense moins que ce qu'on pourrait dépenser, et donc on a plutôt ce que les économistes appellent une sorte d'épargne forcée, on est forcé d'épargner, et une des grandes questions de la reprise, ça va être savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Donc il ne s'agit pas pour les gouvernements aujourd'hui d'essayer de dire est-ce qu'on va redonner encore plus de l'argent aux ménages. Bien sûr que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, il faut absolument les aider, il faudra continuer à les aider après la sortie de crise. Mais là, ce dont les gouvernements parlent, c'est plutôt de l'investissement public, de l'investissement à long terme, par exemple, pour faire de la transition écologique, par exemple, pour faire de la transition numérique, par exemple, pour renforcer les systèmes de santé. Et ça, renforcer les systèmes de santé, oui, il faut se poser la question, où est-ce qu'on achète les respirateurs, où est-ce qu'on fait des masques, où est-ce qu'on, dans quelle mesure on achète des lits et où on les achète. Et ça, de ce point de vue-là, le président de la République française nous a dit, promis pour l'instant, alors les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, hein, que sur ces domaines un peu stratégiques, il faudrait qu'il y ait de qu'on revienne au niveau français ou au niveau européen, qu'on soit moins dépendant de l'étranger, moins dépendant de la Chine, mais aussi des États-Unis. Okay. Vous savez, on échange quand même beaucoup aussi avec nos partenaires occidentaux, et on espère que une Amérique sans Trump sera beaucoup plus enclin à partager avec nous et à faire plus d'efforts en commun avec l'Union européenne. Mais oui, c'était une excellente question.
Ouais, c'est une excellente question. Emmanuel Le Chip, je vous entends là-dessus. Si vous voulez bien, il nous reste une minute. Allez-y.
Oui, parce que ce qu'on voit bien quand même, c'est que la question... Alors effectivement, Christian a tout à fait raison, hein, il ne s'agit pas de relance de la consommation, mais la vraie question de notre souveraineté, quelque part, et des productions qu'il faut relocaliser ou pas, c'est un énorme débat. Et là, on voit bien que s'il y a bien un échelon qui est pertinent, c'est l'échelon européen. Prenez cette affaire, par exemple, de médicaments, de matériel pharmaceutique, etc., etc. Bien évidemment que chaque pays européen ne va pas, à l'intérieur de ses frontières, remettre des usines pour les respirateurs, les médicaments, chacun. Et qu'on voit bien que au niveau européen, c'est là qu'il faut essayer d'avoir une réflexion intelligente. Réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, solidarité et complémentarité avec les pays européens, c'est de ça qu'il faudrait discuter. Donc vous voyez, au-delà de la question, dans ce plan de relance, on peut mettre tout ça. Et encore une fois, ce sera vraiment déterminant, parce que ce qui fait que cette crise restera comme une crise très violente, mais très ponctuelle, ou bien deviendra une véritable crise durable, dépendra de la façon dont on sera capable justement de financer la reprise et des projets qu'on sera capable de mettre en place.
Sur
et
le là, sol européen.
Au fond, ouais. Il est vraiment fondamental.
Emmanuel, Christian, merci à vous. Merci à tous ces auditeurs qui nous ont appelés. Vous étiez encore très nombreux. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. On va voir maintenant comment ça ne tourne pas tout à fait rond ailleurs non plus. Allez hop, on file aux États-Unis.
Nearly $350 billion in loans will be available to small businesses, including sole proprietors. These loans are up to 100% forgivable as long as employers keep paying their workers.
Et c'est notre ami de Washington qui nous alerte. Ah non, pas Donald Trump. Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Pierre-Yves, aux États-Unis, c'est une incroyable histoire de détournement du plan de sauvetage que vous nous racontez ce matin. Il y a un mois, le Congrès mettait 349 milliards de dollars sur la table pour aider les PME américaines, mais le dispositif, il a été tout bonnement piraté.
Eh bien, l'agence fédérale américaine qui est chargée d'aider, en temps normal, les petites entreprises s'appelle Small Business Administration. Elle garantit des prêts que des banques font à des entreprises, généralement de moins de 500 salariés. Il y a un mois, le Congrès l'a chargé de garantir jusqu'à 349 milliards de dollars de prêts si l'argent servait à payer des salariés plutôt qu'à les mettre à pied. En 12 jours, les 349 milliards de dollars ont été prêtés, mais on découvre maintenant que des centaines de milliers de PME n'ont même pas pu présenter leur dossier. Leurs banques les ont laissés en attente sans rien leur dire. En revanche, au moins 150 grandes sociétés cotées en bourse ont contourné la loi et arraché quelques 600 millions de dollars de prêts. Il s'agit souvent de firmes de plus de 500 employés, par exemple des chaînes de restaurants et des chaînes d'hôtels, qui ont cumulé les demandes de prêts au niveau de leurs établissements individuels parce que ces derniers emploient moins de 500 personnes.
Et alors, Pierre-Yves, comment a réagi l'administration Trump ?
Donald Trump, surpris, promet maintenant que les entreprises, manifestement autres que des PME, vont devoir rendre cet argent. Elles ne seront pas poursuivies au pénal si elles rendent les fonds avant le 7 mai. Les banques sont également accusées de complicité. Elles ont clairement aidé leurs plus gros clients à contourner la loi et surtout à passer avant des milliers de vraies petites entreprises qui, elles, sont toujours en attente et n'ont rien eu.
Et du coup, est-ce qu'elles auront un jour quelque chose, ces PME américaines ?
Elles l'espèrent, car le Congrès vient de voter 322 milliards de dollars de plus pour réapprovisionner la Small Business Administration avec des instructions plus claires cette fois-ci pour que les petits passe avant les grands.
Eh bien, Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington pour nous raconter cette énorme histoire de hold-up en plein jour. Merci à vous, Pierre-Yves. Merci à vous, les débatteurs aussi, Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre pour le débat et la bonne énergie. C'est le Magecko XXL. Et dans un instant, nous avons rendez-vous avec Sonia De Villers pour faire le point sur la santé de nos journaux.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on.
You'll never stop this. Stand my love.
Stop This Flame. C'était le titre de cette chanteuse de 25 ans, Céleste, qui fait danser tout le Royaume-Uni et aussi la régie.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Sonia, on n'est pas très loin de 9h45, ça tombe bien, hein, c'est à peu près l'heure de l'Instant M, l'émission média que vous présentez habituellement. Alors dans quelques minutes, on aura votre invité avec nous, hein, Jean-Michel Baillet, c'est le président du grand groupe de presse basé à Toulouse, La Dépêche. Avec lui, on va revenir sur une semaine de tous les dangers pour nos journaux, Sonia. La liquidation du quotidien de Rouen, Paris-Normandie, et puis la faillite du principal réseau de distribution de la presse française.
En fait, Alexandra, les épreuves ont commencé pour la presse écrite dès le début du confinement, quand La Poste, sans crier gare, a réduit la distribution des journaux et du courrier en général à 3 jours par semaine. Rendez-vous compte, les abonnés allaient ainsi recevoir le vendredi le journal daté du mercredi. Alors pour la presse régionale, ça a été un coup super violent. Certains quotidiens en Lorraine ou en Bretagne font porter leurs exemplaires par leurs équipes, mais d'autres, comme en Dordogne, comptent sur La Poste pour acheminer 70% de leurs exemplaires. De quoi entrevoir une effrayante inégalité entre les régions, d'autant qu'en début d'épidémie, on s'en souvient tous, la demande a été extrêmement pressante en matière d'infos locales. La presse quotidienne régionale a listé, par exemple, les ressources hospitalières ville par ville, les fermetures et les annulations d'événements, les appels aux dons aussi. Elle a tiré sur papier des attestations de sortie, parce que oui, c'est utile hein, pour tous les lecteurs qui n'ont pas d'imprimante à la maison. Bref, La Poste a fini par céder et elle a promis 5 jours de distribution.
Et bien sûr, on va demander à votre invité qui a menacé de saisir la justice si la promesse a été tenue. En tout cas, Sonia, les marchands de journaux, ils sont restés massivement ouverts. Hein. La distribution de la presse, elle a donc été sauvegardée.
Alors c'est maintenant en fait la crise économique qu'il faut affronter. La liquidation judiciaire de Paris-Normandie a sonné mercredi, Alexandra, comme un coup de tonnerre dans le ciel de la presse régionale. Le titre était déjà lourdement endetté. La baisse brutale de la publicité l'a mis à terre. Preuve que les journaux fragiles sont en grand danger en ce moment. Or, le bilan de l'année 2020 en presse quotidienne régionale fait frémir. Nice Matin vient tout juste de sortir d'un plan de sauvegarde. Et encore, grâce au rachat de Xavier Niel, le fondateur de Free, qui est déjà propriétaire du Monde. France Antilles a fait faillite au mois de janvier. Là aussi, reprise in extremis par le providentiel Xavier Niel. Mais 2 départements, la Martinique et la Guadeloupe, n'ont plus de journaux imprimés. Et puis le Démocrate à Vervins, dans l'Aisne, a également suspendu sa parution. La question ne s'était jamais posée auparavant, Alexandra. La voici qu'elle surgit. La France risque-t-elle de connaître des régions sans journaux locaux, ce qu'on appelle en fait des déserts de presse.
Ouais, une expression un peu terrifiante. Votre invité Sonia est éditeur de La Dépêche du Midi et du Midi Libre. C'est également le patron du syndicat de la presse régionale. Et c'est un élu dans le Tarn-et-Garonne, ancien ministre de l'aménagement du territoire. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur France Inter, Jean-Michel Baillet.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Ah ben c'est un plaisir. Avant de repasser la parole à Sonia, Jean-Michel Baillet, vous vouliez signaler un autre quotidien régional qui a disparu cette année, c'est l'Écho à Limoges ?
Oui, bien sûr, le Populaire, qui avait été créé à la Libération et qui a disparu dans l'indifférence générale au mois de décembre. Mais vous avez bien campé le décor. La crise actuelle, nous allons en parler, mais elle se plaque sur déjà une crise structurelle que nous vivions. Il faut savoir que j'avais, en tant que président de l'Alliance, saisi les pouvoirs publics et que nous étions en train d'élaborer un plan filière pour justement permettre la transition numérique. Des plans qu'il y en a eu beaucoup en France, le plan France Télécom, le plan textile, le plan chirurgie. Il faut accompagner la presse si nous voulons garder des journaux libres et indépendants. Nous sommes partie prenante de la vie démocratique. Nous sommes partie prenante, presque une sorte de service public, de l'information locale. Vous avez rappelé ce que faisait un certain nombre de mes confrères. Nous sommes partie prenante de l'égalité des territoires. Permettez à l'ancien ministre de l'aménagement des territoires d'appuyer sur ce point. Quand le président de la République parle de cette égalité, mais ceux qui sont le plus frappés, ce sont ceux qui vivent dans les zones les plus fragiles et les plus reculées. D'où le combat que nous avons mené avec la presse pour permettre à l'ensemble de nos abonnés dans ces territoires-là de recevoir leur journal. Donc nous étions déjà dans une crise conjoncturelle et dans une nécessité de transition vers le numérique. Arrive ce malheur du Covid-19 qui aggrave la situation et qui met nos économies en danger. C'est pour cela que nous sommes là aussi tournés vers l'État en demandant un certain nombre d'aides.
Alors, justement, Jean-Michel Baillé, on a Sonia De Villers, votre première question à Jean-Michel Baillé.
Bah oui, j'aimerais bien que Jean-Michel Baillé, justement, au nom de l'ensemble de la presse quotidienne régionale, dresse un premier bilan après 6 semaines de confinement. Quels sont vos revenus publicitaires? Quels sont vos revenus en matière d'annonces légales? Où en sont les ventes?
Le bilan est dramatique. Nous vivons un sinistre absolu, puisque nous avons perdu à peu près en moyenne 80% de nos recettes publicitaires. La même chose pour les annonces légales. La diffusion en moyenne a baissé partout de 20% et encore davantage dans la presse spécialisée. Donc vous imaginez que nos comptes d'exploitation sont dans le rouge, même si nous avons mis un certain nombre de nos collaborateurs au chômage partiel. D'ailleurs, il faut rendre hommage à ces collaborateurs parce que malgré les difficultés sanitaires, nos ouvriers, nos journalistes, nos employés créent les conditions pour que le journal soit une réalité et que l'on puisse informer le public de manière indépendante. Mais la situation est très préoccupante. Vous avez rappelé qu'il y a un certain nombre de journaux qui ont déposé le bilan et d'autres qui ont disparu. Si rien n'est fait, ce sera une véritable hécatombe. C'est pour cela que nous sommes au travail pour essayer de trouver les solutions. Un certain nombre ont été trouvés avec des accompagnements bancaires, mais le compte n'y est pas et nous devons continuer, car ce serait pour la démocratie
un drame. Jean-Michel Baillet, et on comprend bien, mais justement Jean-Michel Baillet, je viens de raconter qu'un milliardaire, Xavier Niel, capitaine d'industrie, a volé au secours de France Antilles, a volé au secours de Nice Matin, on l'attendait pas du tout dans la presse quotidienne régionale. Est-ce que c'est ça qui risque de se passer l'année prochaine, quand plein de titres régionaux seront en grande fragilité?
Il vaut mieux que les titres soient repris, y compris par des milliardaires comme vous le dites, que de les laisser disparaître.
Oui.
Mais moi, ça n'est pas ma vision.
Oui.
Moi, je suis attaché à une presse indépendante, à une presse libre. Ce n'est pas tout à fait le cas lorsque les journaux appartiennent à ces grands groupes multinationaux. En tout cas, ça n'est pas ma vision de la presse, ni notre souhait. Nous avons déjà des combats à mener face à Google, face à Facebook, qui pillent nos revenus et qui pillent nos contenus.
Oui.
Je ne pense pas que une presse qui appartiendrait à 2 ou 3 milliardaires, par ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, propriétaires de plateformes, ce serait une bonne chose. Et ce serait une
bien.
Perte.
Et on voit que le...
Une perte forte pour la démocratie.
Et on voit que le peu de publicité qu'il va vous rester, il est convoité aujourd'hui aussi par les télévisions, Jean-Michel Baillet, parce que BFM TV, par exemple, s'est lancé dans une course à l'information locale, a ouvert des antennes à Paris, à Lille, à Lyon, a signé des partenariats avec des réseaux de chaînes régionaux. On voit aussi que la future loi sur l'audiovisuel, si elle existe un jour, hein, c'est pas sûr, va peut-être autoriser les chaînes nationales comme TF1 à faire de la publicité en région. Tout ça, ça vient manger un petit peu la laine, le peu de laine qui vous restait sur le dos.
Moi, j'ai envie de dire que nous sommes assiégés, attaqués de toutes parts. Je sais que le ministre de la Culture a prévu dans la loi audiovisuelle d'autoriser la publicité géolocalisée, mais c'est encore un mauvais coup qui va nous être porté. Je sais que BFM et aussi d'ailleurs TF1, au nom de cette publicité géolocalisée, veulent créer des antennes locales et sont déjà à l'œuvre. Et BFM a bien avancé en la matière. Ce seront encore des recettes en moins. Donc le fond du problème et la question à poser, voulons-nous, oui ou non, dans ce pays, préserver une presse libre, indépendante et lui permettre d'assurer sa transition vers le numérique qui est bien sûr inéluctable. Si oui, il faut que le plan filière soit une réalité rapidement et qu'un certain nombre de mesures, telles que celles que vous venez d'évoquer, soient suspendues pour ne pas dire annulées.
Ouais.
Sinon, eh bien, ce sera ce que vous avez dit, tous les journaux disparaîtront et seront repris au gré des puissances financières.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Michel Baillet, d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et on entend
merci
bien votre appel.
Si vous le permettez,
allez,
point
oui.
3 à la presse écrite. Elle est indispensable, elle fait partie de notre paysage démocratique, elle est nécessaire dans nos territoires. Et avec mes confrères de l'Alliance, nous continuerons à nous battre, non seulement pour exister, mais pour retrouver la prospérité au service de nos lecteurs et de nos annonceurs.
Merci Jean-Michel Baillet. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on vous laisse aller faire le marché. Il paraît que confinement ou pas, vous le faites confinement ou pas, vous le faites le samedi matin.
Je vous ai fait les confidences. Oui, mais dans le respect des gestes barrières.
Dans le respect, vous avez bien raison. Allez, Sonia de Villers, en bref, on jette un coup d'œil au reste de l'actualité des médias cette semaine. On cause télévision, vous nous emmenez dans les pays arabes, c'est le début du Ramadan.
Bah, pour vous parler, Alexandra, de la télévision, justement, en période de Ramadan, des audiences records le soir, chaque année, notamment autour de la rupture du jeûne. Les chaînes vendent leurs écrans publicitaires aux tarifs les plus élevés de la saison. Alors, les hits du Ramadan, ce sont des caméras cachées, parfois assez trash d'ailleurs, hein, comme c'est le cas en Algérie, mais surtout des séries. Or, c'est le désastre, Alexandra. Le Covid a interrompu tous les tournages et les montages des Mossal Salat, les séries du Ramadan, dans certains pays, comme en Égypte ou au Liban, des productions ont été maintenues au compte-gouttes, sauf que ça a entraîné des conflits terribles avec toutes les équipes. Bref, Ramadan plus confinement, ça fait un public massivement devant la télé et rien à regarder.
Ah, ça c'est terrible. Sonia, au Brésil, une histoire folle, c'est l'émission de télé-réalité Big Brother. Bon, c'est l'équivalent de notre Loft Story que la chaîne Rede Globo n'a pas interrompu.
Alors, si seulement quelques jours, Alexandra, le temps de prévenir les candidats qui étaient cloîtrés dans une fausse maison que l'épidémie faisait des ravages à l'extérieur. Ces candidats, ils ont tous accepté de continuer. Le jeu est même prolongé jusqu'à la semaine prochaine. 98 jours d'enfermement avec des caméras qui tournent H24. Le public brésilien en est complètement dingue. 416 millions de votants lors d'un récent épisode. Score jamais égalé par aucune télé-réalité dans le monde entier.
C'est un peu pareil à France Inter, cloîtré dans la maison ronde. Non, je plaisante. Allez, le moment média avec Sonia De Villers. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, Sonia.
Avec plaisir.
Le retour du Magéco, voici la deuxième heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour arpenter ce monde éco qui encaisse les chocs et qui, dans certains secteurs, pense à repartir le plus vite possible. Avant même le 11 mai, regardez les usines. On va en parler avec notre invité, Philippe Varin, le président de France Industrie. Dans le monde du cinéma, l'horizon de la reprise, lui, est beaucoup plus lointain. Le cinéaste Pierre Salvadori sera aussi en direct avec nous. Et puis au programme encore, Ma vie au boulot, Sandrine Foulon répond aux questions que vous lui avez laissées dans la boîte mail du Magéco. Et enfin, une idée pour repenser le monde. Ce samedi, Camille Cronier a invité le philosophe Gaspard Koenig à monter sur la tribune. Voilà, vous savez tout et c'est parti.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
C'est ton premier jour ?
Oui.
D'accord, bah je t'invite à passer par là, on va t'expliquer comment ça se passe. Bonne journée, bonne reprise.
Merci.
Oui, bien sûr. Oui.
Vous savez bien, on est d'accord, l'écho ça ne se fait pas qu'en studio. Alors nous voici dans le Nord, à Onin, à l'usine Toyota. Des gants, un masque, une perche, vous allez entendre ce reportage déconfiné. C'est là que les Yaris sont fabriqués, près de Valenciennes. Et nous y sommes avec ce salarié qui reprend le chemin du travail. On entend aujourd'hui des industriels trépigner. Depuis le début du confinement, la production a chuté de moitié et à présent, les grandes entreprises, elles montent au créneau. Oui, la crise sanitaire, oui, le confinement qui dure, mais elles veulent redémarrer et sans tarder. C'est donc ce qui s'est passé mardi dernier, sous les yeux et au micro de Rémi Brancato, une journée particulière. 550 des 4500 salariés de Toyota relancent le site à l'arrêt depuis plus d'un mois, avec précaution, avec toutes les précautions.
Après plus de 5 semaines à l'arrêt, il faut montrer patte blanche pour rentrer dans l'usine.
On va se désinfecter les mains, bien entre les doigts, autour. Tu peux te prendre ta température ?
Des tentes sont installées pour contrôler la température sur le parking. Chaque salarié de retour dispose de gel hydroalcoolique et de 2 masques au moins par jour, parfois même de visières en plexiglas.
Ça fait du bien de reprendre. Si tout le moyen de sécurité est à notre disposition, pourquoi pas? Pourquoi pas reprendre?
On a toujours une crainte, surtout pour le retour à la maison. On va travailler différemment.
À l'intérieur, seule une chaîne de production reprend du service sur 3. Le restaurant d'entreprise reste fermé. Il y a des marquages au sol pour la distanciation sociale et ici, on ajuste la chaîne d'assemblage.
En temps normal, en fait, on a des opérateurs qui travaillent face à face sur une porte arrière et une porte avant.
Laurent Laloux, responsable de la production assemblage, fait installer une séparation en plastique entre les 2 postes de montage sur les portières.
Ce qu'on a décidé, c'est de mettre en place cette protection sur l'intégralité de la ligne.
Toyota assure surtout vouloir gagner du temps pour s'adapter aux normes sanitaires. Alors pendant au moins 2 semaines, la production sera en test. 50 véhicules par jour au lieu de 1100 en temps normal. Seule une équipe sur 3 au travail, un tiers des 4500 salariés. Luciano Biondo, le président de l'usine, ne donne pas le montant du manque à gagner. Ce n'est pas l'enjeu, selon lui.
Vous savez, quand vous allez produire 50 voitures avec 1000 salariés, vous imaginez le coût des voitures. Redémarrer calmement, sans avoir la pression du volume, pouvoir s'adapter, va faire en sorte que l'entreprise soit prête pour la reprise économique. Donc s'il y avait une logique économique, je continuerai à toucher le chômage partiel et puis j'attendrai que l'usine redémarre.
Mais l'entreprise mise sur un déconfinement anticipé dans le nord de l'Europe pour vendre ses Toyota Yaris. 85% partent à l'exportation et la clé, c'était le dialogue social.
Nous avons passé plus de 3 jours à expliquer, à partager et améliorer le processus avec nos partenaires sociaux.
On a dit oui justement pour essayer de s'adapter à travailler avec le Covid.
La CFDT, syndicat majoritaire, et son secrétaire Thomas Mercier ont été convaincus par la reprise.
Aujourd'hui, quand on sent le MEDEF qui nous appelle justement à travailler pendant les congés d'août, on se dit on doit choisir entre la peste et le choléra. Et là, aujourd'hui, on a eu une garantie de la direction, justement avec l'effort qui est fourni des salariés, qu'on ne travaillera pas au mois d'août. C'est de l'anticipation, justement.
De son côté, la CGT, minoritaire, estime que ce redémarrage est une bombe à retardement. Elle craint des contaminations dans les prochains jours.
Déconfinement anticipé chez Toyota au micro de Rémi Brancato. Alors on l'a bien entendu, hein, cette reprise elle repose sur la négociation, le dialogue social. Et ce qu'on entend bien aussi, ce sont les positions différentes des syndicats. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Manuel, vous êtes journaliste au service économie de France Inter. Parmi tous ces syndicats, on peut dire que la CGT fait partie des moins convaincus de l'urgence d'une reprise, en tout cas dans tous les secteurs de l'industrie.
Alors oui, c'est un fait. Non pas que la CGT soit arc-boutée sur une opposition systématique à toute reprise, non, puisque des accords se signent un peu partout dans des entreprises en France, mais la CGT aurait voulu que le gouvernement définisse des secteurs vitaux ou essentiels pour ne faire redémarrer que cela. Par exemple, Laurent Trombini, qui est membre de la Fédération de la Métallurgie de la CGT, qu'on va entendre dans un instant, est aussi salarié chez Thalès. Et il a signé un accord de reprise dans son entreprise, mais uniquement pour, alors, le médical, par exemple, dans lequel intervient Thalès sous différentes formes, ou encore le maintien des satellites en orbite. Oui, ce serait bête qu'il nous tombe sur la tête. En revanche, pour d'autres secteurs de l'industrie, comme justement l'aéronautique et l'automobile, Laurent Trombini est beaucoup plus sceptique.
Depuis le dernier discours du président Macron, ses employeurs ont été confortés dans une volonté de faire reprendre massivement le travail. Lorsque on a le président de la République qui dit que toute l'industrie française est essentielle au pays aujourd'hui, c'est vrai que ça donne des ailes à certains.
Et vous dites qu'il y a des reprises dans des secteurs qui, selon vous, ne sont pas essentiels.
Ah oui, complètement. Il y a des pans entiers de l'activité, par exemple l'aéronautique. Aujourd'hui, tous les avions sont au sol. Il y a de nombreuses commandes qui ont été reportées du fait, effectivement, de cette situation. Qu'on sait qu'elle va durer des mois et des mois, voire toute l'année 2020, c'est sûr, peut-être 2021. Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucun appareil qui décolle. Dans l'automobile, c'est la même chose. Produire des voitures qui ne se vendent pas, parce qu'aujourd'hui, quasiment tout est à l'arrêt, non, ce n'est pas du tout vital. En plus, il n'y a pas les moyens de sécurité comme nous le souhaitons. Par exemple, la mise à distance des personnes, tout ce qui est l'organisation du transport. Rares sont les entreprises qui donnent vraiment des moyens pour que les salariés puissent se déplacer en toute sécurité et en sécurité pour les autres aussi. Effectivement, aujourd'hui, il y a une reprise à marche forcée massivement du travail.
Alors évidemment, vous l'imaginez, ce n'est pas l'avis des chefs d'entreprise. Et quel est leur argument? Eh bien, il est simple et il tient en une phrase. Ne rajoutons pas une crise économique à la crise sanitaire. D'autant plus qu'ils l'assurent, eux, tout est mis en place pour la sécurité des salariés. Hubert Mongon est le directeur général de l'UIMM, l'Union des industries de la métallurgie. 15 000 entreprises en France, 1 800 000 salariés. Eh bien, on est face au plus grand déclin de l'histoire de l'industrie, dit-il, pire que 2008, et il faut en sortir.
Le gouvernement a pris, je crois, ses responsabilités dans un premier temps, mettant en place un certain nombre de mesures, notamment d'indemnisation au titre de l'activité partielle, des mesures économiques, évidemment, qui vont dans le bon sens. Néanmoins, on est tous persuadés qu'il n'y a pas de meilleure réponse que l'activité de nos entreprises et la reprise, je dirais, de la production. On ne pourra pas durablement s'appuyer sur les dispositifs qui nous ont été présentés. Donc aujourd'hui, tout le monde est assez convaincu, les salariés d'ailleurs les premiers, que c'est par la reprise de l'activité, la reprise de la production qu'on arrivera à sortir de l'ornière.
Mais alors, du point de vue sanitaire, comment on s'y prend?
Très concrètement, on voit évidemment des choses qui sont liées à l'organisation du travail, c'est-à-dire que des entreprises qui avaient par exemple 3 équipes n'en ont mis en place que finalement plus que 2, ce qui permet des périodes de nettoyage des postes de travail, d'assainissement, je dirais, de l'environnement de travail dans des conditions satisfaisantes. Beaucoup d'entreprises ont travaillé également sur les mesures de distanciation, c'est-à-dire au moins 1 mètre entre 2 postes de travail quand c'était possible. On a beaucoup travaillé également sur l'environnement des vestiaires, l'environnement des réfectoires. On a beaucoup travaillé avec les entreprises autour des conditions de transport, en privilégiant quand c'est possible les transports individuels. On voit également beaucoup de choses autour de, évidemment, des conditions de circulation au sein de l'entreprise. C'est des sujets là aussi qu'on connaît bien, mais sur lesquels on a souhaité retravailler. Voilà un peu sur quoi on a été mobilisé et on continue à se mobiliser aujourd'hui.
Manuel, donc on vient de l'entendre, hein, la Fédération de la métallurgie, elle défend les efforts des directions pour protéger les salariés et l'impérieuse nécessité de refaire tourner les usines. Mais finalement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un si gros risque que ça à rester provisoirement en sommeil?
Eh bien oui, mais alors pas forcément en premier lieu les grosses entreprises, les donneurs d'ordre. En revanche, les sous-traitants, eux, pourraient bien ne jamais s'en relever. C'est ainsi que l'analyse Élie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS.
Sur l'industrie, si on regarde ce qui se passe, et si on regarde notamment la mère de toutes les industries, c'est-à-dire l'industrie automobile, la perte d'activité dans l'industrie automobile au niveau européen est de 50%. C'est une perte absolument considérable et qui efface tous les épisodes précédents de crise qu'on a connus jusqu'à présent. Alors, j'ai pas d'inquiétude pour l'industrie automobile, qui est une industrie lourde, très fortement concentrée, dans laquelle les stress tests ont été faits et qui est capable de supporter un choc de cette ampleur. Par contre, c'est le tissu économique environnant de ces grandes entreprises, que ce soit les entreprises de l'automobile ou de l'aéronautique, qui vont beaucoup souffrir. C'est la fragilité des entreprises sous-traitantes de premier rang, de deuxième rang et de troisième rang qui va aboutir à des pertes d'activité, à des disparitions d'entreprises, à des faillites et à des pertes de compétences et les disruptions dans les chaînes de valeur.
Est-ce que pour l'industrie, il n'y a pas ce risque de se faire prendre des parts de marché par tous ces pays qui vont redémarrer avant nous?
C'est le très grand risque qui est présent à l'esprit de tout le monde. À partir du moment où les différents pays ne pratiquent pas les mêmes stratégies de confinement, premièrement, deuxièmement, n'accordent pas la même importance à la vie humaine et privilégient le retour le plus rapide à l'activité économique. À partir du moment où on continue à maintenir des flux d'échanges ouverts, eh bien, il y a mécaniquement un risque de substitution de demande avec une offre qui sera très présente pour des producteurs étrangers et une offre qui sera moins présente pour les producteurs nationaux.
L'industrie pressée de redémarrer, c'était votre dossier, Manuel Ruffez. Merci à vous.
Merci.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Et notre invité est en ligne pour prolonger la réflexion. C'est l'homme à la tête de France Industrie, l'organisation qui regroupe les fédérations du secteur. Bonjour et bienvenue dans le Magéco, Philippe Varin. Merci d'être avec nous.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Philippe Varin, vous êtes un industriel bien sûr, vous-même, l'ancien patron de PSA, Peugeot, Citroën, entre autres. Et puis bientôt, on peut le dire, après le vote de l'Assemblée Générale, sans doute celui de Suez. Alors, on va parler de ce redémarrage de l'industrie, Philippe Varin, mais d'abord, parce que vous connaissez les dossiers sur la table, l'actualité de ces dernières heures, c'est l'aide massive de l'État pour sauver Air France. Qu'en dites-vous? C'était la seule solution?
Oui, je pense que le ministre de l'Économie et des Finances, qui a pris par ailleurs d'excellentes mesures depuis le début de la crise pour traiter la liquidité des entreprises, l'a bien indiqué, il y a des cas où ce ne sera pas suffisant, et donc il a d'ailleurs cité des possibilités pour une vingtaine d'entreprises que l'État puisse intervenir, et ça c'est un cas, oui, c'est le premier cas, oui.
Les deuxièmes cas, Bruno Le Maire, il a aussi évoqué 5 milliards pour Renault. Vous les connaissez ces dossiers, je l'ai dit. Est-ce que vous voyez déjà d'autres grandes entreprises françaises en danger qui vont appeler l'État à l'aide?
Je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre de risques. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que au-delà de la phase de crise où la liquidité a été injectée dans l'économie de manière massive, eh bien, quand on va sortir progressivement de la crise, et y compris pour toutes les entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté, mais il va y avoir un besoin de fonds propres, et donc ça c'est une nouvelle étape qui est devant nous.
Alors il y a 3 mois, l'industrie, elle cherchait des bras. C'est fou, elle se désolait d'avoir des postes non pourvus. Est-ce que vous parlez de l'après? Est-ce que dans l'après, il y a des plans de départ volontaires, des licenciements? Est-ce qu'on va revoir les effectifs de l'industrie baisser?
Si vous voulez, dans l'après... il y a un vrai plan de renaissance industrielle à mettre en place. Peut-être que tu pourrais élargir un tout petit peu la question. On est devant une situation où les besoins de sécurité et de protection des Français devant la montée des risques vont être extrêmement importants, domaine sanitaire, environnemental. Il faudra prendre en compte plus que jamais les enjeux environnementaux. Il y aura les besoins de fonds propres des entreprises que j'ai évoqués. Mmh. Et puis, il y aura aussi ce besoin de maintenir la cohésion sociale, face à une demande qui va être en berne pendant quelques temps, et puis cette situation de l'emploi extrêmement, potentiellement problématique. Donc, dans le plan à mettre en place, qui est un plan qui va rassembler tous les acteurs, c'est-à-dire c'est pas un plan de l'industrie, c'est un plan de l'État, des régions, de l'Europe également, où il va falloir réinventer ensemble un nouveau modèle productif, eh bien, il y a 2 leviers essentiels. 1, c'est l'investissement massif, et 2, c'est le point que vous évoquez, c'est le capital humain qui va être sinon très abîmé.
Mais là, Philippe Varin, quand vous dites très abîmé, c'est 3 millions de salariés, hein, l'industrie.
Qu'est-ce qui peut se passer? Mais si vous voulez, c'est un effet d'entraînement.
Qu'est-ce qui peut se passer?
L'économie qui est énorme.
Quand je dis plan de licenciement, plan de départ volontaire, on est bien en train de parler de ce possible-là.
Alors, oui, vous l'avez évoqué, on est face à un changement radical de perspective. Il y a 3 mois, souvenez-vous, c'était hier, l'industrie offrait 250 000 emplois par an et avait des difficultés pour pouvoir 50 000 d'entre eux. Aujourd'hui, eh bien, on est face, ça a commencé, au gel des embauches, et puis derrière, on sera face à une inévitable montée du chômage. Alors là, il va falloir être créatif dans 2 domaines. Dans les entreprises, il va falloir qu'on mette en place de nouvelles organisations pour prendre le relais du chômage partiel, qui ne va pas pouvoir durer. Enfin, vous savez que la France, aujourd'hui, perd 2 milliards par jour. Oui. Et puis, nous avons la moitié des salariés du privé qui sont payés par l'État. C'est-à-dire 10 millions de nos collaborateurs sont en chômage partiel. Donc, c'est énorme. Et donc, il va falloir prendre le relais de ce chômage partiel. Et pour ce faire, il va falloir que dans les entreprises et au plus près du terrain, eh bien, on puisse passer des accords de performance collective. Parce que, et là, le maître mot, ça va être la flexibilité, pour faire en sorte de limiter au maximum la montée du chômage.
Attendez, ça, c'est la première action. C'est la première action, mais je vous arrête. Attendez, accord de performance collective, ça veut dire que les entreprises industrielles, elles vont demander en effet des efforts aux salariés avec des accords des syndicats sur le temps de travail, la durée de travail et même la rémunération. C'est bien de ça dont on était en train de parler.
Et je peux vous dire que ces accords de performance collective, ils ont tous la même philosophie. Moi, j'en ai vécu quelques-uns, malheureusement, dans ma vie industrielle. Et c'est qu'il y a des moments qui sont difficiles. Et donc, je pense qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Mais dans les accords de performance collective, il faut aussi que lorsque on revient à meilleure fortune, eh bien, le partage des gains puisse être sur la table. Mmh. C'est la philosophie de ces accords de performance. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui va se passer dans les entreprises. Et puis, à l'extérieur des entreprises, là aussi, il va falloir être très créatif, puisque il y aura effectivement de nouveaux chômeurs. Et il va falloir avoir une gestion très réactive de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut mettre au niveau régional en place des dispositifs qui n'existent pas sous cette forme aujourd'hui, où les acteurs importants, peut-être du niveau régional ou au niveau départemental, il faudra réinventer de nouvelles solutions de la manière à ce qu'on puisse réoffrir à chaque nouveau chômeur une formation associée qui puisse lui permettre d'avoir, je dirais, un nouvel avenir professionnel. Alors en plus de ça d'ailleurs, en plus de ces deux actions, vous savez, on avait une dynamique extrêmement positive sur l'apprentissage et l'alternance avant la crise, eh bien il va falloir qu'on la poursuive.
Philippe Varin, on a entendu dans le reportage qu'il y a du débat quand même sur cette reprise du travail, ce pré-déconfinement. Est-ce qu'aujourd'hui, les industriels ont vraiment la capacité et même la connaissance pour faire tourner tous les ateliers en toute sécurité ?
Tous les ateliers ne tournent pas aujourd'hui en toute sécurité parce que, tout simplement, je vous rappelle la situation. Nous avons 56% de taux d'activité. Il y a des secteurs extrêmement touchés comme l'automobile qui a été cité, l'aéronautique ou la construction qui tourne à 10% de la capacité. D'autres secteurs qui résistent bien déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire, la santé, l'emballage, l'hygiène tournent à 80 ou 100% et ont trouvé des solutions. Il faut que ces solutions soient trouvées au plus proche du terrain avec, je dirais, les dispositifs, les protocoles qui permettent justement de ce redémarrage en toute garantie. Et sinon, on ne tourne pas à 100%. Cela a été dit d'ailleurs dans les reportages sur Toyota tout à l'heure.
Mais est-ce que ça a du sens de fabriquer des voitures quand les concessions ne sont pas ouvertes ? L'ancien patron d'un groupe industriel automobile.
La première priorité, c'est de réouvrir les concessions dès que possible. Alors maintenant, vous savez, on a 125 000 voitures aujourd'hui dans les concessions et le ministre de l'économie a indiqué que ce serait le cas, enfin, l'ouverture serait réalisée le 11 mai prochain. Bon. Ceci dit, la vraie question pour le secteur automobile, ça va être effectivement de savoir comment on va soutenir ce secteur. Parce qu'il va falloir que la transition vers le véhicule électrique ou le véhicule hybride soit effectivement effective et favorisée par les plans de relance. Et ça fait partie des investissements massifs qu'il va falloir faire.
Genre prime à la casse, par exemple ? Des choses comme ça ? C'est ça que vous imaginez ?
Il faut d'abord que les primes pour les véhicules électriques soient maintenues, y compris pour toutes les flottes de véhicules, puisque l'État avait commencé à les réduire, comme au niveau des particuliers. Il va falloir que les bornes de recharge soient mises en place. Il y a un certain nombre d'investissements d'infrastructures qui sont à faire. Et si vous voulez, ces investissements pour la croissance verte, ce sont des investissements qui sont créateurs d'emplois. Et ça va être le moment de les faire.
Alors, c'est vrai pour Philippe Varin, oui. J'ai quand même une question là-dessus, justement. La croissance verte, on a vu cette semaine un courrier qui est paru dans la presse du MEDEF qui s'inquiète de diverses lois et décrets qui sont en train de se préparer. Et le patronat demande que ces textes soient reportés. Ça concerne par exemple la pollution de l'air. Est-ce que les industriels de France Industrie sont sur la même ligne ? Est-ce que vous pensez qu'il faut reporter les textes environnementaux ?
J'ai été très clair sur ce point. Je pense que la trajectoire carbone de la France doit être maintenue comme celle de l'Europe et que ça doit être un moteur des plans d'investissement. Alors, il se peut que dans certains cas, notamment, je prends l'exemple de l'économie circulaire, il y a une loi qui est passée en début d'année, il faut mettre en place des décrets d'application, ils doivent être concertés avec l'entreprise, prenons le temps de faire cette concertation. Mais ça ne change rien, ça ne doit rien changer sur le fond à la trajectoire carbone.
Ouais, mais le temps c'est important, la trajectoire c'est bien, mais la vitesse c'est important aussi.
C'est important, mais bien sûr, mais si vous voulez, je vous donne un exemple de la mobilité, la manière de faire pour relancer l'économie et soutenir la mobilité verte. Sur les bâtiments, sur les plans d'isolation thermique des logements et des bâtiments privés, des bâtiments publics également, eh bien, c'est un autre exemple où il y a un soutien qui peut être apporté à tous les propriétaires et ça créera des emplois en France.
D'accord.
Et dans la politique d'investissement, si vous voulez, il y a transition écologique, relocalisation d'un certain nombre de secteurs où on a expérimenté des situations de rupture, et puis aussi développer les marchés du futur et l'industrie du futur sur tous les domaines liés à l'hydrogène, aux véhicules électriques.
On a parlé plans.
Des batteries, de télécommunications, santé, etc.
Des plans pour l'avenir par la voix du président de France Industrie pour le monde d'après, Philippe Varin. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci Alexandra Bensaïd.
Il est 10h33, c'est le Magéco XXL, Avenir dans la prochaine demi-heure. Nous avons Ma vie au boulot, le réalisateur Pierre Salvadori et le philosophe Gaspard Koenig. Mais là tout de suite, on fait une pause. Voici Gorillaz qui s'avance.
désolé. Désolé quand tu penses. Désolé. C'est une envie d'attendre. Désolé. Tu mets pas le temps sans doute. Désolé. Désolé.
Et on n'est pas du tout désolé, carrément heureux de vous retrouver. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Alors la vie au boulot, c'est votre nouveau, le nouveau titre de votre chronique. Bon, en tout cas, la vie au boulot en temps de pandémie, c'est compliqué. On a eu encore beaucoup de questions cette semaine. Je commence avec la question de Jade qui est caissière dans un supermarché. Jade a exercé son droit de retrait parce qu'il n'y avait aucune mesure de protection, nous dit-elle. Son patron lui a retenu une demi-journée de salaire. Est-ce qu'il peut faire ça, demande Jade.
Jade, si vous aviez un motif raisonnable de penser que votre santé était en danger, vous avez eu raison de ne pas travailler. Malheureusement, depuis une jurisprudence de 2008, votre employeur peut décider de ne pas vous payer, comme l'explique l'avocat Laurent Pathé qui vient de créer un site gratuit pour les victimes de Covid, covidgrandest.fr. Votre employeur, Jade, vous pousse au conflit parce que c'est le juge, lui seul, qui décide si le droit de retrait est justifié ou pas. Votre patron essaye de vous décourager, il table sur le fait que pour 48 euros en moins sur votre fiche de paye, vous ne saisirez pas les prud'hommes. Mais sachez que les prud'hommes, c'est gratuit, que vous pouvez aussi obtenir l'aide juridictionnelle gratuite ou faire appel à un défenseur syndical. Si le juge vous donne raison, Jade, c'est lui qui sommera l'employeur de vous payer.
Cécile vous écrit aussi à propos de sa sœur qui travaille dans une animalerie. Après son arrêt de travail pour garde d'enfants, son employeur veut la passer en chômage partiel et qu'elle travaille de temps en temps pour éponger les pertes de l'entreprise. Est-ce qu'il a le droit de lui demander ça ?
Non, l'employeur ne peut pas demander à un salarié en arrêt de travail pour garde d'enfants de travailler, même comme ça, un peu, pour rendre service. Jusqu'au 1er mai, votre sœur Cécile peut rester en arrêt de travail, puisqu'elle n'a toujours pas de solution de garde. Et même après, quand tous les salariés en arrêt de travail basculeront automatiquement au chômage partiel, juste les salariés, pas les fonctionnaires ni les indépendants, c'est pas parce qu'on change de régime que l'entreprise aura tout d'un coup la main sur votre emploi du temps et qu'elle pourra exiger que vous reveniez travailler. Dans le cas où votre sœur Cécile pourrait s'organiser pour travailler un peu, le chômage partiel est plus pratique parce qu'il est décompté en heures. Elle se libère 4 heures, elle sera payée 4 heures et le reste des heures non travaillées lui sera payé à hauteur de 84% de son salaire net, ce qui est plus favorable que les indemnités journalières de la Sécu qui baissent au bout de 30 jours. A contrario, s'il est impossible de jongler avec les enfants et le boulot, votre sœur reste en chômage partiel total.
Mais Sandrine, le 11 mai, les enfants sont censés retourner à l'école.
Oui, mais sur le mode du volontariat. Le salarié qui retrouve théoriquement un mode de garde, mais qui choisit de ne pas envoyer ses enfants à l'école parce qu'il n'a pas confiance, aura-t-il toujours le droit au chômage partiel ? Du côté du gouvernement, c'est pas encore très clair.
Allez, on en reparlera le 11 mai, Sandrine. Mais on termine avec Emmanuel, qui est chef d'entreprise et qui vous écrit. Emmanuel a 20 salariés en arrêt garde d'enfants, justement 40 en chômage partiel. Pourquoi la situation est-elle moins avantageuse pour ceux qui sont payés par la Sécu ? Demande Emmanuel.
Eh bien, parce que le traitement des arrêts de travail est géré différemment selon les caisses dont relèvent les salariés. Pour un chef d'entreprise comme Emmanuel, les arrêts de travail lui coûtent aussi plus cher puisqu'il doit verser un complément de salaire plus important. Et je ne parle pas des assureurs qui, selon les contrats, doivent couvrir ces arrêts de travail alors qu'ils ne sont pas concernés par le chômage partiel. Mais encore une fois, il n'y aura plus qu'une seule règle au 1er mai, chômage partiel pour tout le monde, avec en prime ce qu'on appelle l'activité partielle individualisée, sous réserve d'accord avec les élus du personnel, il sera possible qu'un salarié dans un service soit en chômage partiel. Alors qu'aujourd'hui, c'est une mesure collective. Il faut répartir équitablement l'activité partielle entre toutes les personnes qui font le même boulot pour éviter la discrimination. À partir du 11 mai, il sera surtout question de favoriser la reprise d'activité.
Et on ne parle que de ça cette semaine et dans le Mag'Éco, Sandrine. On a eu aussi cette annonce étonnante du PDG de Veolia, Antoine Frérot. Il va dépister tous ses salariés. On l'écoute, il était sur BFM.
Nous préparons effectivement le retour progressif à la normale, notamment pour les 10 000 salariés qui sont en télétravail. Et nous préparons effectivement leur retour progressif sur leur lieu de travail en veillant à les réassurer et à obtenir leur confiance pour qu'ils soient en sécurité sur leur lieu de travail plus que partout ailleurs. Ça commence dès maintenant. Les deux types de tests, le test PCR et le test sérologique, et ça s'étalera sur plusieurs semaines, sans doute même un peu plus d'un mois.
Un mois de dépistage massif des salariés et même de leurs familles. Sandrine, c'est impressionnant, mais on a toujours la même question. Est-ce qu'une entreprise, elle a le droit de faire ça?
Oui, l'entreprise peut parfaitement proposer des tests à condition, évidemment, que ce soit sur la base du volontariat, et c'est le cas. Aucun employeur ne peut obliger un salarié à passer par la case prise de sang ou à se faire dépister par la PCR, vous savez, le coton-tige dans le nez. L'avocat Stéphane Bloch, associé chez Flichy-Granger et membre d'Avocial, est formel. Un dépistage comme celui-là ne peut se faire que par la médecine du travail. C'est très encadré. C'est le médecin du travail qui garantit l'anonymat, qui prévient le salarié s'il est contaminé. En aucun cas, ces données de santé, comme la prise de température, ne peuvent être gardées par l'entreprise. Après, c'est sûr que les salariés qui refuseront pourraient être regardés de travers, mais c'est pas certain non plus que les tests soient tous fiables. On peut être testé négatif le lundi et être contaminé le mardi. Mais globalement, les salariés de Veolia seront sans doute rassurés de voir que 15 millions d'euros seront déboursés en gants, masques et tests et qu'ils pourront trouver dans leur entreprise les conditions dont rêvent beaucoup de Français pour un déconfinement plus serein.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, vos questions. Eh ben, ça se passe, je rappelle la boîte aux lettres, hein, Sandrine. On n'arrête pas l'écho. Oui. @radiofrance.com.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Allez, on continue notre revue des secteurs économiques et comment ils sont touchés, comment ils peuvent se relever. Le cinéma, c'est aussi une industrie avec des producteurs, des distributeurs, des exploitants. Et ce matin, un réalisateur nous rejoint pour en parler. Je le salue, bonjour et bienvenue Pierre Salvadori.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous dans le Mag'Éco. Vous êtes le réalisateur de En Liberté, excellent, Hors de Prix, et puis si je remonte un peu plus loin, Les Apprentis aussi. Première question, Pierre Salvadori, finalement, comment ça vous touche, vous, personnellement, réalisateur, ce confinement ?
À titre personnel, j'étais en préparation. J'étais en pleine préparation de mon prochain film qu'on devait tourner le 1er juin et qui a donc été interrompu. Et le tournage a été décalé, on espère, au 3 août. Si on est en mesure de le faire, s'il peut être assuré.
Alors,
les assureurs garantissent.
Oui, c'est ça le sujet maintenant pour vous, pour reprendre le tournage. On sait que les productions sont arrêtées. Ça veut dire qu'il faut discuter avec les assureurs, mais pour assurer quoi finalement ?
C'est compliqué, je peux pas exactement vous dire. Ce sont les producteurs et les distributeurs qui ont en ce moment des conversations fréquentes et qui essaient de mettre au point un système. Assurer le réalisateur, assurer les comédiens, principalement.
Et vous, dans votre direction d'acteur, il va falloir mettre des distances, c'est ça que vous envisagez ?
Non mais écoutez, ça va être très très compliqué, je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir imaginer. La chance que j'ai, c'est que je vais tourner un film pour enfants avec des enfants, donc a priori ils sont moins contaminés que les autres et ils sont moins, a priori ils contaminent moins les autres, mais je sais pas exactement comment ça va se passer. Est-ce qu'il va falloir tous porter des masques le temps d'une prise? Comment vous voulez faire? Il y a des personnages, je parle, ils sont proches les uns des autres. Donc, il va falloir imaginer un système. Je pense que, pour l'instant, ils ont parlé de tester tout le monde et de mettre tout le monde en quarantaine, en quatorzaine, si vous voulez, un petit peu avant le début du tournage. C'est-à-dire, l'idée, c'est que de tester les gens, de les garder en quarantaine pendant 2 semaines et de tourner à partir de là. Je pense que ce sera pas suffisant. Il faudra avoir des choses un peu plus précises.
Ouais, en tout cas, on voit bien qu'il y aura une réorganisation énorme du travail dans le cinéma. Sur le plan économique, le monde du cinéma, Pierre Salvadori, on sait bien qu'il est l'un des plus durement touchés. Est-ce que vous qui voyez, qui connaissez, qui discutez avec beaucoup de monde, est-ce que vous pensez qu'il y a certains des acteurs de cette industrie qui auront vraiment du mal à se relever? Est-ce que vous êtes plus inquiet pour certains?
Bon, je suis inquiet pour beaucoup de monde. Les producteurs indépendants, les distributeurs indépendants, les intermittents. On a une industrie, vous savez, qui est très interdépendante. Il y a plusieurs métiers. Parce que à partir du moment où les salles sont bloquées, toute la filière est bloquée. Les salles sont bloquées, les distributeurs ne peuvent pas sortir les films. Et si les distributeurs ne peuvent pas sortir les films, ils ne peuvent pas garantir des minimums garanties à terme aux producteurs qui ont besoin de l'investissement des distributeurs pour monter des films. Si les producteurs ne montent plus de films, il n'y a plus de films. S'il n'y a plus de films, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus d'intermittents et d'artistes qui travaillent. Tout, à partir du moment où la salle est bloquée, toute la filière est bloquée.
Et justement, est-ce qu'on a un horizon pour la salle ou est-ce que vous avez un espoir? On sait bien qu'elles ne rouvriront pas le 11 mai, puis après on a beaucoup d'interrogations. Comment est-ce qu'on ira dans des salles obscures? Comment ça peut s'organiser?
Peut-être comme dans des avions, hein, peut-être qu'ils garantiront des jauges et qu'il y aura des obligations. Ce qui est important, c'est de stimuler ça et de donner envie à ce que les gens puissent retourner en salle à donner envie aux gens de retourner en salle à partir du moment où ce sera possible, sans danger. C'est ça le plus important. Mais la grande crainte aussi, c'est ça, c'est le choc psychologique. Est-ce que les gens auront envie et auront le désir et pas trop d'appréhension à retourner dans la salle, qui est vraiment le... Pour moi, en plus, même artistiquement, si vous voulez, j'ai toujours conçu mes films, pas pour la télé, a priori, au départ, pour la salle.
Ah bah juste, justement, voilà. Vous parlez de la télé, on prend des mauvaises habitudes, hein, vous le savez bien, on a vu la consommation de télé, et surtout le nombre d'abonnés aux plateformes de VOD, les Netflix et autres, exploser. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit elles, ces grandes plateformes, et surtout américaines, mais il y en aura une française, ces grandes plateformes qui soient les grandes gagnantes de ce confinement?
Le sont d'ores et déjà. Ils sont déjà les grands gagnants de toute cette affaire. Donc il va falloir, quand la reprise va se faire, impliquer ces gens-là. Il y a une loi audiovisuelle, vous savez, qui était un petit peu en route, qui faisait contribuer les plateformes à la création française et européenne. Il va falloir vraiment les contraindre. Il va falloir que cette loi audiovisuelle, hein, ce qu'on appelle la directive SMA, elle se mette en place le plus rapidement possible, parce que la production elle est sinistrée, que notre secteur va être extrêmement ça va être très douloureux, hein. Je pense beaucoup aux intermittents, moi aussi, qui vont se retrouver dans des situations et qui sont d'ores et déjà dans des situations terribles. Donc il va falloir essayer d'impliquer au maximum ces plateformes et les faire contribuer à la production et à...
On voit que les positions bougent. En tout cas, on a le sentiment que quelque chose se passe. Cette semaine, il y a eu cet accord entre MK2, les cinémas et Netflix sur une partie du catalogue du groupe de Marin Karmitz. Comment est-ce que vous l'analysez, vous? C'est du cinéma d'auteur, hein, que là, MK2 va mettre.
Ça me choque pas, moi. Ça me choque pas. Je sais qu'il y a des gens que ça choque, mais la nature même de leur pratique aux plateformes, c'est de diffuser en streaming des films et d'avoir des catalogues qui soient les plus larges possibles. Donc moi, si vous voulez, les plateformes, elles sont là, elles existent. Je les considère pas, moi, comme des ennemis. Je me dis que le cinéma, il a dû affronter plusieurs fois ce genre de choses et il s'est toujours réinventé. Le cinéma, quand la télé est arrivée, on a prédit la mort du cinéma. Quand Canal+ est arrivé, après, on a prédit la mort du cinéma. Et quand les plateformes arrivent, on prédit encore la mort du cinéma. Au contraire, moi, je trouve que c'est stimulant et ça dit aux artistes et aux cinéastes, bah, quelle alternative, même esthétiquement, proposer? Quelle chose forte proposer pour que les gens continuent à aller en salle? Vous voyez, quelle alternative de récit, quel récit inventé pour faire face à l'arborescence des séries, à leur foisonnement, au fait qu'il y ait 50 personnages. Moi, quand je fais mon film, quand je fais En Liberté, je l'ai pensé vraiment en fonction de ça. Un film rapide, linéaire, avec peu de personnages. Donc ça, c'est pas le problème. C'est les faire contribuer à la production, parce que c'est pas possible que des plateformes, si vous voulez, qui ont un terrain de jeu aussi vaste, surtout les plateformes anglo-saxonnes, puis se dire, bah voilà, nous, on a des abonnements très peu chers et on fournit une offre pas possible, mais on ne contribue pas à la production. C'est ça l'enjeu, c'est de dire, il faut que ces plateformes contribuent à la production, injectent de l'argent, elles aient des obligations comme ont Canal et comme ont les chaînes de télé. Tout le système du cinéma, qui est génial et qui est très vertueux, il fonctionne là-dessus. Des obligations et une mutualisation des recettes. Bah, il faut que ça continue et que les nouveaux entrants mettent de l'argent aussi pour que la production puisse être assurée dans des conditions intelligentes.
Pierre Salvadori, merci, analyse économique très claire. Merci de nous avoir rejoints sur France Inter et d'avoir partagé vos réflexions avec nous sur l'avenir du cinéma. Tiens, je vous signale à ce sujet la revue papier de nos confrères et amis de France Culture. C'est le numéro 32 consacré à l'avenir du cinéma. Il sera en vente jusqu'au 25 juin. Philippe Catherine Huy, ce ne sont pas des réflexions, mais des confessions carrément qu'il nous fait dans son dernier album. Voici Duo, Philippe Catherine, Angèle, Chili Gonzalez.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
Rester dans un bon tempo avec vous. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Une idée pour repenser le monde le samedi. On vous retrouve Camille pour ouvrir notre horizon dans l'obscurité de cette crise. Regardez l'avenir en compagnie d'une personnalité. Alors dites-nous, qui est avec vous ce matin ?
Alors c'est un écrivain philosophe, moins de 40 ans, un petit air bon chic, bon genre, très Kennedy, disent certains, qui va avec son parcours de fils d'intellectuel, hein, normal sup, agrégé de philo, plume de Christine Lagarde à Bercy, avant de se consacrer au laboratoire d'idées qu'il a fondé il y a 7 ans, Génération Libre, libre comme libéralisme, le pur et dur, hein, qui place la liberté individuelle au centre de tout. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Alors cette crise et ce qui va suivre vous inspire. Vous avez écrit beaucoup ces derniers jours. Tout à l'heure dans l'émission, on parlait de relancer vite. Mais alors, vous plaidez tout le contraire, Gaspard Koenig, puisque votre idée pour repenser le monde, c'est ralentir.
Je pense que c'est d'abord une expérience que pas tous, mais beaucoup d'entre nous qui sommes confinés vivons. C'est une forme de grand ralentissement de la vie où tout d'un coup tout est plus lent, nos commandes sont plus lentes, nos discussions sont plus lentes, peut-être nos interventions à la radio seront plus lentes, je l'espère pas. Et cette maîtrise du temps nous permet aussi de laisser la place à l'imprévu, à l'impromptu, à l'intempestif. Et au fond, on s'aperçoit que cette forme d'oisiveté peut être extrêmement productive et un très bon guide pour suivre ce chemin. C'est Michel de Montaigne, qui est une sorte de professionnel de l'oisiveté créative, qui l'apprend dans tous les domaines, en amour, en voyage, qui se plaint des gens qui décachètent les lettres dès qu'ils les reçoivent, un peu comme ceux qui ouvrent leur texto ou leur message au milieu d'une conversation. Et que, au-delà des questions personnelles ou morales, je pense que ça peut nous permettre de repenser un certain nombre de choses, notamment le fait que le trajet est aussi important que la destination et que le principe d'utilité ne doit pas guider toutes les politiques publiques et que peut-être l'optimisation est une erreur.
Mais tout ça tranche avec la course effrénée, le toujours plus vite, toujours plus de profits qu'incarne le libre-échange, la mondialisation et que dénoncent aujourd'hui d'ailleurs certains intellectuels antilibéraux. Vous avez changé de camp ?
Non, je pense que la mondialisation n'a rien à voir avec tout ça. Je pense que ralentir, ce n'est pas du tout refermer. Et qu'au contraire, on voit aujourd'hui que les échanges internationaux permettent plutôt de lutter contre le virus. La coopération scientifique, par exemple, de grande ampleur, en open source, du jamais vu, qui s'opère aujourd'hui, n'aurait pas pu se faire sans un monde mondialisé avec des frontières ouvertes, avec une langue commune, une lingua franca. Et qu'au contraire, c'est une bonne démonstration des vertus de la mondialisation. En revanche, ce qu'il faut, c'est d'abord une meilleure gouvernance, parce que quand on voit les États qui se battent comme des chiffonniers pour les masques et les ventilateurs, on se dit que tout ça devrait être géré de manière plus coopérative. Et vous faisiez référence à ces intellectuels. Moi, je trouve un peu de très mauvaise foi de mettre un virus sur le dos de la mondialisation. Les virus sont apparus avec la vie. Ils préexistent de 3,5 milliards d'années à nos systèmes de pensée. Et nous en avons connu plusieurs par siècle. Il faut quand même avoir la mémoire longue. Même nous parler de Montaigne, il décrit des épisodes de peste quand les raisins restaient suspendus aux vignes, dit-il, qui n'ont évidemment rien à voir avec le libéralisme.
Vous les traitez d'intellectuels fumeurs d'opium et même de péténistes. C'est de la provoque, ça, Gaspard Koenig ?
Toujours être un peu provocateur, fumeur d'opium, j'emprunte l'expression à Raymond Aron, donc ça reste quand même raisonnable. Et cette histoire de péténiste, c'est surtout pour dire que je me méfie d'une sorte de retour à la nation, à l'État, à la terre, qui est une forme de réflexe national. En temps de crise, on entend beaucoup acheter français. Derrière l'histoire des circuits courts, on entend beaucoup quand même une forme de retour du nationalisme, un rêve d'autarcie, que la France devrait être indépendante sur tous les plans, alors que on pourrait imaginer que dans l'avenir, des crises de nature différente, des explosions radioactives par exemple, nous poussent à faire tout l'opposé, au contraire, faire beaucoup plus d'échanges pour se fournir à l'étranger. Et ma crainte derrière ce discours, c'est qu'ils conduisent à une réduction durable des libertés civiles, mais aussi économiques, parce que les deux vont de pair. Et Foucault avait très bien montré au début de l'histoire de la folie que les structures de gouvernance qui sont mises en place pour des raisons sanitaires, lui il pensait aux léproseries, perdurent après l'épidémie. Et donc il faut quand même se rappeler que nous avons abandonné énormément de libertés ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être pour de bonnes raisons. Évidemment, la liberté d'aller et venir, qui est la première de toutes, mais aussi des libertés constitutionnelles, des libertés institutionnelles. Je rappelle que le gouvernement légifère par ordonnance et qu'il va falloir les retrouver les unes après les autres et faire bien attention de ne pas trop sacrifier le monde d'avant qui tout de même tenait sur un équilibre des pouvoirs qu'il ne faudrait pas jeter à la mer.
Et on va s'arrêter là, Gaspard Koenig, parce que la vitesse nous prend. Vous proposez-vous de concret le revenu universel? Si on veut justement savoir davantage, on peut relire donc votre essai Ralentir sur le site de Gallimard ou aller faire un tour sur votre site gaspardkoenig.com où on pourra voir que vous joignez le geste à la parole puisque vous avez prévu de partir à cheval cet été pour, comme Montaigne, aller de Bordeaux à Rome en prenant son temps.
Oui, absolument, prenant plusieurs mois.
Camille, merci Gaspard Koenig, merci à vous Camille Cronier, une idée pour repenser le monde. Et ben c'est tous les samedis dans le Magéco XXL.
À tous nos clients, BNP Paribas continue de se mobiliser pour vous. Étudiants et apprentis, nous sommes là pour vous aider à faire face à la crise et vous pouvez maintenant bénéficier de nos mesures de soutien. Pour votre crédit étudiant, suspension pendant 6 mois et sans frais de vos échéances. Et si besoin, possibilité de recourir à un prêt jusqu'à 5 000 euros, sans intérêt, sans garantie, ni frais de dossier. Pour en savoir plus, contactez votre conseiller ou rendez-vous sur mabanque.bnpparibas. BNP Paribas, engagé à vos côtés. Offre de crédit sous réserve d'acceptation par BNP Paribas.
Alerte solidarité. Pour la première fois de son histoire, Emmaüs est en danger. Contraint de mettre fin à l'essentiel de nos activités en raison du Covid-19, nous sommes aujourd'hui sans ressources pour venir en aide aux plus démunis. Sans votre aide, des milliers de personnes risquent de se retrouver à la rue face au virus. Aujourd'hui, Emmaüs lance d'urgence un appel à dons pour continuer à protéger les plus fragiles. Plus que jamais, ils ont besoin de nous. Mais pour continuer à agir pour eux, nous avons besoin de vous. Ne les laissons pas retourner à la rue. Donnez maintenant sur emmaüs-france.org.
Le Mag Éco baisse le rideau. Rendez-vous samedi prochain. Prenez soin de vous.